cours de philosophie de l'art par le père Marie-Dominique Philippe, le 5 décembre de l'an 1984 à Saint-Jeudard.
Dans l'inspiration, dans la contemplation artistique, l'idéa, puis les différents possibles d'où s'impose le choix par ce nécessaire, est une activité totalement interne, immanente, d'où naît l'œuvre de façon encore intentionnelle. Le moment, peut-on l'appeler moral ? Ce moment, peut-on l'appeler moral ? Puisque s'y trouve impliqué l'amour de la créativité artistique, la responsabilité à l'égard de l'œuvre qui déjà se produit intentionnellement. Eh bien non, on ne peut pas l'appeler moral. C'est justement ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a... Toute intériorité n'est pas une intériorité morale. Quand je fais de la métaphysique, est-ce que c'est moral ? C'est de l'intériorité ? Je pense. Je pense l'être. Penser l'être, est-ce que c'est moral ? Non. Est-ce que c'est artistique ? Non. C'est intellectuel. C'est la vie de l'intelligence. Dans mon intériorité, dans l'immanence de ma vie de l'esprit, il faut arriver à distinguer des orientations différentes qui sont toutes au niveau de l'intentionnalité. Ce qu'on disait à la lecture de midi, vous avez remarqué que Brentano, qui était un dominicain, mais qui est parti, qui a quitté, je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il est devenu illustre, mais Brentano a remis en pleine lumière, il ne faut pas l'oublier, l'intentionnalité de saint Thomas. Et Husserl a repris le problème de l'intentionnalité, mais d'une façon très différente, parce que dans une perspective beaucoup plus idéaliste, alors que Brentano avait quelque chose qui était beaucoup plus réaliste. Eh bien, l'intentionnalité, c'est toute cette vie intérieure qui se développe à des niveaux différents. L'intentionnalité au niveau de l'intelligence spéculative, l'intentionnalité au niveau de l'intelligence pratique. Et au niveau pratique, il y a deux orientations. Le pratique artistique, au sens du facere, et le pratique de l'agir. Donc il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre que l'intentionnalité est très, très multiple. Donc je dirais que l'inspiration, qui est source de l'idéa, à partir desquelles les différents, nous allons le voir, les différents possibles se présentent à moi, le choix créateur, tout ça, c'est très vrai, c'est de l'ordre purement immanent. Une immanence qui demande, du reste, à se réaliser. Une immanence qui va se prolonger dans le travail, et donc dans la réalisation proprement dite. Mais c'est très vrai que ce moment de l'inspiration, de la naissance de l'idéa, et donc du choix créateur de l'idéa, c'est purement intérieur, mais ce n'est pas à cause de ça que c'est moral. Alors, on souligne moral à cause de la responsabilité et à cause de l'amour. Il faut faire attention. L'inspiration implique un aspect affectif, c'est très vrai. Comme toute l'intelligence pratique. Mais l'affectivité est différente du côté du facere et différente du côté de l'agir. Ce n'est pas toujours commode de bien le préciser. Mais il y a un amour présent à l'intérieur de toute inspiration. C'est jamais quelque chose de glacial, l'inspiration. Oui, il y a des inspirations qui vous donnent froid dans le dos, mais c'est quand même toujours, ça vous donne froid dans le dos parce qu'il y a un côté affectif. On ne sait jamais neutre. Et donc, il y a un côté affectif, mais l'affectivité n'est pas la même qu'en morale. Et c'est ce qu'on essaiera de préciser. Parce que ça, c'est une question très importante. Comme la responsabilité au sens fort, naît dans l'ordre moral, pas dans l'ordre artistique, qui explique que les artistes sont quelquefois, quand ils ne sont qu'artistes, quelquefois si prodigieusement, comprenez bien, si prodigieusement naïfs au point de vue moral. C'est très curieux, du reste. pas du tout même responsabilité que la responsabilité d'ordre dans l'ordre de l'amitié. C'est pas la même chose. Et on essaiera de comprendre ça, voyez, parce que c'est en analysant justement ce que c'est que l'inspiration. Et c'est difficile, c'est pas commode. Parce que c'est un problème. On dit l'inspiration, ça ne peut pas être analysé, ça ne peut pas être étudié. On peut analyser philosophiquement l'inspiration. Et on doit le faire. Mais ce n'est pas commode parce que, de fait, cette analyse, elle échappe comme quelque chose qui est une source. L'inspiration est une source. Toutes les sources échappent à l'analyse. Donc ce n'est pas une analyse qu'on fait, c'est une espèce de saisie philosophique pour comprendre ce que représente l'originalité de l'inspiration. Alors, voyons tout de suite que avant l'inspiration, ce que je vous disais la dernière fois, avant l'inspiration, c'est très important au plan philosophique, et vous voyez que c'est très important au point de vue pour nous. Théologique. On parle de l'inspiration du divin. Alors la plupart des exégètes ou des philosophes qui parlent de l'inspiration divine n'ont jamais étudié l'inspiration au niveau philosophique. L'inspiration au niveau philosophique, c'est dans la philosophie de l'art qu'on doit comprendre. Et c'est là où il y a quelque chose qui reste humain, authentiquement humain. C'est une dimension du développement humain, l'inspiration. Alors, voyons qu'avant l'inspiration, normalement, il y a l'expérience. L'expérience artistique. Alors, l'expérience artistique, c'est quoi? Quand quelqu'un a du goût, il y a des gens qui n'en ont pas. Alors, ça fait mieux comprendre ceux qui en ont. Quand des gens ont du goût, ils connaissent. Ils comprennent, ils discernent, c'est de l'ordre de l'expérience. C'est pas nécessairement de l'ordre de l'inspiration. Il y a des gens qui ont du goût et qui n'ont pas d'inspiration. Il y a des gens qui ont l'inspiration et qui, quelquefois, manquent complètement de goût. C'est curieux. Il peut y avoir une continuité, une certaine continuité, mais en même temps, il y a une très grande discontinuité entre les deux. Alors, il faut, je crois, considérer l'expérience artistique comme le milieu normal d'où va naître l'inspiration. C'est ce qui permet normalement. L'inspiration n'est pas en continuité avec l'expérience artistique. Il n'y a pas une continuité absolue. Il y a une brisure entre les deux. Il y a une discontinuité entre les deux. Entre l'expérience et l'inspiration artistique. Mais il y a tout un milieu dans lequel normalement l'inspiration naît plus facilement. Pourquoi les artistes sont-ils si influencés et si influençables par le milieu dans lequel ils se trouvent? Pour des artistes, il y a des milieux qui stérilisent et il y a des milieux qui aident l'inspiration. Il y a des milieux qui stérilisent, il y a des milieux qui arrêtent l'inspiration. C'est très curieux, ça, chez les artistes. C'est rude, du reste, à porter. Et puis, il y a des milieux, au contraire, qui aident. Alors, il faut essayer de comprendre ce que représente cette expérience artistique, l'expérience esthétique. Vous voyez bien que quand on parle d'expérience, le mot « expérience » a des modalités extrêmement différentes. Et le philosophe doit être sensible à toutes ces différences, ces modalités d'expérience. Pourquoi? Parce que l'expérience est, de fait, quelque chose de très complexe. L'expérience implique quoi? Comme élément, je vais vite là-dessus, mais ça vaudrait la peine de bien comprendre, et de bien saisir. Qu'est-ce que ça implique, l'expérience? Ça implique nos sensations. Nos sensations extérieures. Normalement, dans nos expériences, nos sensations externes sont vues. Un magnifique lever de soleil. Vous pouvez le regarder les sept. Alors vous regardez uniquement le point de vue utilitaire, vous pouvez le regarder de cette manière-là, vous pouvez le regarder de façon scientifique, oui, tout de suite, nous avons dit la réfraction. Puis vous le pouvez regarder avec du goût. Vous aimez. Beau lever de soleil, de voir un beau coucher de soleil. C'est quand même beau. Quand on n'a rien d'autre comme beau, on s'y arrête davantage. Et alors, on se dit, prenons quand même ça, c'est déjà quelque chose. Parce que ça, c'est Dieu qui compense. Et quand Dieu compense, il le compense bien. Là, c'est bien. Quand vous regardez un beau tableau, une belle statue, vous vous arrêtez. Vous aimez ça. Les sens externes sont présents. En plus des sens externes, il y a l'imagination qui joue un très grand rôle. Si on se laisse aller un tout petit peu à cette expérience, hein, l'imagination est là très présente. Il y a avec l'imagination une affectivité. Du matin et l'affectivité du soir n'est pas la même. N'est-ce pas ? Donc il y a une affectivité qui joue, et qui joue beaucoup. Il y a l'intelligence. Je ne dis pas la raison, la raison, je dirais non. Il y a l'intelligence qui est présente. Je crois dans toute expérience. Expérience qui me fait toucher la réalité, qui me fait voir un spectacle, un tableau, qui me fait toucher une statue. Dans toute expérience au sens fort, il y a toujours ces trois éléments, sensation externe, imagination, intelligence. Dans toute expérience. C'est pour ça que quand je dis que la philosophie commence par l'expérience que j'ai du travail, ou l'expérience que j'ai de ce qui est vu implique toujours sensation externe, imagination, intelligence. Toujours. Dans toute expérience, il y a ces trois éléments. Puisqu'il y a toujours ces trois éléments, dans toute expérience au sens fort, vous voyez, la différence entre l'expérience au sens fort, c'est-à-dire l'expérience extérieure. Tandis que quand l'expérience est purement interne, le rêve, ça implique l'imagination, est-ce que l'intelligence est présente? Je suis pris par l'imagination. Le rêve, un cauchemar. Je ne crois pas que l'intelligence est présente. Purement imaginatif. L'imagination et l'affectivité. Comme toujours, dès qu'il y a l'imagination et l'affectivité. C'est impossible autrement. Quand j'ai l'expérience interne d'un accident, je suis parfaitement éveillé. L'expérience externe d'un accident, ça implique l'imagination, l'affectivité, l'essence externe. C'est pas ça, je m'arrête pas à ça, mais ils étaient présents. Et j'ai la conscience qu'il est arrivé quelque chose de grave. On aurait pu y passer. Tout de suite, hein, première réaction, on aurait pu y passer. C'est grave, on voit très bien. Protection de Saint-Michel. C'est pour ça qu'on n'est pas tombé dedans. Vous voyez, la conscience qui nous donne conscience de cet accident. On a toujours comme l'imagination, le rêve implique ça aussi. Alors, au fond, l'expérience externe au sens fort va impliquer les sensations, l'affectivité, l'imagination, l'intelligence et la conscience. Donc il y aura toujours un, deux, trois, quatre, cinq éléments expérience au sens fort, il y a toujours cinq éléments. Par le fait même que c'est quelque chose de complexe, ça peut se présenter selon des modalités très différentes. J'ai une expérience affective de mon ami qui est présent et qui est triste. J'ai une présence affective de quelqu'un que j'aime bien et qui me met tout de suite dans un état particulier. Cette présence affective, elle est une expérience au sens fort. Elle a une expérience externe, l'affectivité, l'imagination, l'intelligence et la conscience. Mais c'est l'élément affectif qui veut dominer. Et c'est pour ça que je dirais une expérience affective. Maintenant, je dis expérience artistique. Qu'est-ce qui va dominer dans l'expérience artistique? Eh bien, je crois que dans l'expérience artistique, ce qui domine, c'est des sensations externes qui sont mises en pleine lumière dans leur capacité de toucher les qualités sensibles. Pensez à l'expérience que vous avez du Betson. Quand il y a un beau Betson ou un beau toucher, c'est vraiment des sens externes, des sensations externes. L'imagination est présente, mais on ne se laisse pas aller à ça. L'affectivité est présente, c'est évident, mais on ne se laisse pas aller à cette affectivité. On est plus attiré par les qualités sensibles, par la lumière. Le phénomène de la lumière, qui joue son rôle si important. Mais oh, quelle belle lumière! La lumière, qualité sensible. Ou au contraire, le son, si vous voulez. Vous entendez un petit oiseau chanter, un rossignol chanter. Vous vous laissez bercer. Vous vous laissez prendre. Dans le côté affectif est plus grand. Mais on se laisse quand même prendre par, par un appel. L'intelligence est présente. Il n'y a pas d'expérience externe au sens fort sans que l'intelligence soit présente. Puis il y a conscience. Alors qu'est-ce qui va caractériser l'expérience artistique? Bien, je crois que ce qui caractérise l'expérience artistique, c'est la mise en lumière des qualités sensibles. Et des qualités sensibles dans ce qu'elles ont de tout à fait propre. Alors, les qualités sensibles dans ce qu'elles ont tout à fait propre, c'est justement, dans l'ordre de la vision, la lumière. C'est la lumière. On est sensible à la lumière. Et être sensible à la lumière, c'est vraiment une expérience artistique, au sens pictural. Être sensible au rythme, être sensible au son musical, être sensible au point de vue plastique, d'une harmonie, d'un ordre. Oui, il y a chacune des sensations différentes. Puisque vous avez les cinq sensations différentes, alors il faudrait se demander si nous avons cinq expériences artistiques typiquement diverses. C'est très intéressant de se poser la question. Vous avez donc le toucher, la vision, les deux extrêmes. Toucher et vision, c'est toujours les deux extrêmes. Bon, pour la vision, c'est ça, c'est la lumière. Il faut se demander quel est le toucher artistique. Ce n'est pas le toucher du cuisinier. C'est chaud. Quand il touche, c'est chaud et c'est froid, c'est par rapport au pâté. Est-ce que je peux servir cette soupe, elle est bouillante, je ne dis rien. Ils vont tous se brûler la main. Si je suis un tout petit peu prudent, mais attention, c'est brûlant. Avant de toucher, bien, la chaleur et le froid n'est pas une sensation esthétique. C'est curieux. Ouais, quand vous touchez une statue, vous ne pouvez pas chaude. Tiens, c'est curieux. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose d'autre. C'est le sens de la pierre, le sens du bois, le rugueux, le pomice. C'est beaucoup plus ça qui est le sens du toucher, pas du toucher esthétique. c'est pas du tout, vous voyez, c'est l'analogue de la lumière. Alors posez-vous la question, hein, parce que c'est intéressant, quel est l'analogue de la lumière au niveau du toucher, au niveau de la statue. Vous avez dit après, attendre. Alors là, c'est vraiment un peu facile, vous avez dit, le rythme, l'analogue de la lumière. La lumière, c'est sûrement ce que nous saisissons le mieux. C'est sûrement le saisissant. Alors, il faut saisir l'analogue de toutes les modalités des cinq sens, L'odorant. Quel est l'analogue de la lumière dans l'ordre de l'odorant? Il faut découvrir ça soi-même. C'est très intéressant à faire. Parce que c'est à la fois connaissance artistique et connaissance critique. Et dans la critique, on peut faire ça, parce que c'est les cinq possibilités que nous avons de toucher le réel par les sensibles propres. Vous voyez, ça, c'est les sensibles propres. L'artiste est très saisi par les sensibles propres. C'est vraiment chaque sens qui va être mis en pleine, j'allais dire, dans sa fine pointe de toucher, de vision de celui qui écoute, qui entend, pour saisir les cinq modalités particulières, les cinq qualités dominantes du monde sensible. Alors là, nous touchons tout de suite à ce que représentent ces cinq modalités d'expérience artistique. Et je crois bien qu'il n'y en a que cinq. C'est les cinq sensibles propres. Vous avez les sensibles communs. Je reviens toujours à cette distinction pour que vous soyez un peu familiarisés avec cette distinction qui est très importante au point de vue critique et qui est si importante. Alors, dans les sensibles communs, on a la figurante. À la place de regarder la lumière, on ne regarde plus que la figure. Vous savez, c'est la dégradation de la peinture. La vraie peinture regarde la lumière. Et les peintres du dimanche, la figura, la petite maison bien bâtie, tu vois, cinq fenêtres, la figura. Ça, c'est la dégradation. On touche les sensibles communs. Et alors, tout de suite, ce n'est plus une expérience artistique au sens fort. C'est autre chose. Vous avez dans la figura, vous avez le continu, la grandeur, le nombre. Du mouvement et du repos. Vous avez donc cinq sensibles communs. Cinq sensibles communs. Les cinq sensibles, oui, parce que je vais continuer grandeur ensemble. Continuer en grandeur, c'est la même chose. C'est intéressant, et ce serait intéressant, je le souligne là comme piste de recherche. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites dans ce domaine-là. Les cinq sensibles propres que nous saisissons et que nous mettons en pleine lumière. Alors, il faudrait se demander quelle est l'expérience propre du poète. Du peintre, on le voit tout de suite, mais du poète. Ça ne peut pas se ramener à Louis, ça ne peut pas se ramener au toucher, ça ne peut pas... Alors c'est quoi le poète? Il a une expérience sensible, hein. Le poète est un être sensible, et même terriblement sensible. Hein. Ce n'est pas du tout l'abstraction. Il y a une expérience propre du poète. L'expérience propre du poète, c'est... Alors vous allez me dire, ah, c'est un peu ce que dit Maritain, c'est que l'expérience du poète, elle est présente dans les cinq... C'est-à-dire, elle est poétique. Alors, il y a des poètes qui sont des poètes de la lumière ou des ténèbres. Ça existe, hein. Il y a des poètes des ténèbres, de la nuit. Il y a des poètes qui sont des poètes du rythme, du mouvement, du rythme. Et la dégradation du rythme, c'est le mouvement. Tout de suite. C'est sensible comme un. Les sensibles communs dégradent les sensibles propres. C'est la dégradation. C'est le passage de l'aspect qualité à l'état pur, dire, au niveau du conditionnement de cette qualité. Alors c'est la dégradation, tout de suite. Alors on ne s'occupe plus que du mouvement, on ne s'occupe plus que du repos. Alors vous avez une chose très hachée, n'est-ce pas, qui est uniquement le repos, la succession brutale. Il n'y a plus de rythme au sens fort. Il n'y a plus la qualité particulière de ce qui se meut. C'est un mouvement haché extérieur. On voit très très bien, ça, on sent. Alors, est-ce que l'expérience du poète comme telle, c'est tout simplement cet aspect poétique dans les différents domaines, ou est-ce qu'il y a une expérience propre du poète ? Le poète se sert de la parole. Il ne faut pas l'oublier. C'est toujours par le moyen propre, la matière particulière de chacun des artistes qu'on voit l'expérience qui leur correspond. Et le peintre, ça c'est la lumière, c'est facile à comprendre. Il se sert de la couleur pour la lumière. Et le peintre qui n'a pas d'inspiration reste dans la couleur ou la figure. Alors, ça vient de la photographie, n'est-ce pas ? Merveilleux, c'est parfaitement. Alors le poète, il se sert des mots, il se sert du langage. C'est le langage sa matière. Et alors, le langage, il est saisi extérieurement. C'est lourd. C'est pour ça qu'il y a une parenté entre le point de vue musical, le musicien et le poète. Il y a une parenté plus grande qu'avec, normalement, le peintre. Puisque, normalement, il est plus lié au son et à la parole. Mais, à la différence de la musique, c'est que le poète est lié à la parole avec sa signification. Pas uniquement au son. La signification. Et la signification dans ce qu'elle a de tout à fait première. Dans ce qu'elle a j'allais dire de poétique. La signification est poétique quand elle jaillit de source. Quand elle est déjà un tout petit peu usée, ça ne va plus du tout. Et donc il faut une signification qui est reprise à sa source, à son origine. Alors, vous voyez, c'est lié donc pas uniquement à l'ouïe. C'est l'intelligence qui est plus présente dans l'expérience poétique que dans l'expérience picturale. L'intelligence est plus présente, parce que le problème de la signification joue un rôle plus important en poésie que dans la peinture. Alors, l'expérience, le point de vue de l'intelligence est plus présent, mais c'est pas une intelligence abstractive. C'est une intelligence qui reste toujours liée à la parole, aux mots, à l'image. Il faut évoquer une image. Évoquer une image par le point de vue de la parole, qui est liée, plus ou moins. Mais quand la signification l'emporte sur l'image, on risque d'avoir une poésie trop cérébrale. Il faut que la signification et la représentation soient toujours présentes. Et c'est le propre, justement, d'un langage symbolique. Et le propre de l'expérience poétique, c'est l'expérience d'un langage symbolique. C'est le lieu propre du poète. Alors, c'est l'expérience du milieu qui évoque en lui cela. Tout devient symbolique pour le poète. Il regarde le lever du soleil, c'est symbolique. Ça a une signification. À la différence du peintre, c'est très différent. Vous voyez comment l'intelligence peut, présente dans ces diverses sensations, donnera une valeur différente à l'expérience. Et il faut soi-même essayer de comprendre, parce que comme on parle beaucoup d'expérience, il faut bien comprendre que l'expérience poétique, artistique, a des modalités diverses. Et que c'est vrai. C'est la mise en lumière complète de ces qualités sensibles. C'est la mise en lumière par l'affectivité, par l'imagination, par l'intelligence. et que l'expérience poétique apparaît bien comme l'expérience où l'intelligence a un rôle plus immédiat. Je vous lis ce passage de Maritain. C'est intéressant de temps en temps de se référer à lui. L'expérience poétique comporte, à mon avis, deux phases. Une première phase de systole et une seconde phase de diastole. Quant à la première phase, bon, très bien, deux phases, double mouvement. Quant à la première phase, elle dépend d'une part, je pense, d'une condition psychologique présupposée. Par un heureux concours de circonstances, le monde externe et la perception externe perdent leur emprise sur l'âme. Mais en même temps, l'équilibre intérieur de l'âme et les connexions entre l'intellect et les sens internes demeurent intactes, une condition apparentée à celle du rêve, mais intégrée, et où l'intelligence n'est ni ligotée, ni délestée du réel. Cette première phase dépend d'une autre, d'une cause déterminante, qui est l'action attirante et absorbante, exercée à la manière d'un point brillant qui provoque le sommeil lorsqu'on garde les yeux fixés sur lui. Par une intuition poétique, préconsciente, présente dans l'esprit. Car c'est l'intuition poétique qui produit d'abord l'expérience poétique, et elle est à son tour fortifiée par celle-ci, de sorte qu'elles croissent ensemble. Dans la première phase, par conséquent, dans la phase de systole et de repos unifiant, toutes les forces de l'âme rassemblées dans la quiétude étaient donc dans un état de virtualité et d'énergie dormante. Et l'intuition poétique, encore préconsciente, était le seul accès formé à l'intérieur de la vie préconsciente de l'intellect et la secrète raison de cette concentration silencieuse. Et c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Je vous lis exprès, bon, parce que c'est bon. Alors, c'est dans Maritain, 4 essais sur l'esprit dans sa condition charnelle, page 135. Maritain revient du reste souvent là-dessus. Mais voyez, je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Maritain met intuition et expérience ensemble. Parce qu'au fond, il n'étudie pas, il n'analyse pas les différents moments du point de vue artistique. L'intuition, c'est l'inspiration. Nous allons voir. Toute inspiration implique l'intuition. C'est une très grosse différence avec l'expérience. Dans l'expérience, Maritain souligne, dans l'expérience, il y a contact avec quelque chose qui subitement apparaît. Quelque chose qui vous est donné, mais quelque chose de réel. Vous voyez, c'est la très grosse différence, c'est que dans l'expérience artistique, qui nous donne le goût, vous goûtez un bon chocolat, vous pouvez le goûter esthétiquement. C'est pas trop, mais vous pouvez le goûter esthétiquement, c'est du bon chocolat, c'est du chocolat merveilleux, c'est du chocolat belge. N'est-ce pas merveilleux, meilleur que le chocolat suisse, n'est-ce pas, et qui fait que c'est quelque chose d'excellent. Alors, on goûte ça. On le goûte. Et il peut y avoir un goût de gourmet qui est esthétique. C'est évident. Quand vous pouvez avoir une vision esthétique et puis l'avoir complètement. Alors, qu'est-ce qui fait le côté esthétique? C'est ça qui m'intéresse. Alors, quand Maritain met ces deux choses-là, je vois très bien, il prend l'intuition et l'expérience très liées l'une avec l'autre. Et très souvent, il ne distingue pas assez. Je crois qu'il faut distinguer expérience et intuition. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte. L'expérience, c'est le toucher avec la réalité existante. l'expérience au sens fort, l'expérience externe. Même au point de vue artistique, il y a quelque chose qui s'impose à moi. Quelque chose que je goûte, quelque chose que j'aime, quelque chose qui me prend, qui me saisit. Tandis qu'au contraire, dans l'inspiration, il y a un décollage. L'inspiration, je suis en dehors de la réalité immédiatement visible. C'est autre chose, l'inspiration. C'est pour ça qu'il y a des êtres debout et des êtres d'inspiration. C'est pas la même chose du tout. Alors quand il prend ces deux mouvements du cœur pour expliquer les deux, n'est-ce pas, systole et diastole, je ne sais pas si... d'expérience et d'intuition, l'analogie devrait porter sur quoi ? Ce serait intéressant, devrait ça pousser exactement, de voir exactement ce que ça représente comme les deux mouvements. Il y a un rythme entre les deux, je suis d'accord, entre l'expérience et l'intuition. Il y a quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir continuité, il peut y avoir discontinuité. Mais j'essaie d'analyser qu'est-ce que c'est que l'expérience artistique ? Eh bien, l'expérience artistique, c'est la mise en lumière. Mais la mise en lumière géniale, parce que nous avons tous des expériences artistiques très différentes, la mise en lumière géniale des sensibles propres. C'est les sensibles propres qui apparaissent subitement, presque avec une auréole. C'est pour ça que ce serait intéressant d'étudier, selon les différents sens, l'analogue de la lumière pour la vision. Ça c'est net pour la vision, c'est net, c'est la lumière. La lumière, c'est l'auréole de toutes les couleurs. Hein. C'est quelque chose qui enveloppe toutes les couleurs. Et quand je saisis vraiment de façon artistique, au point de vue art pictural, ce que représente un beau lever de soleil ou un magnifique tableau, c'est la lumière. C'est la lumière qui me frappe. J'ai le contact avec la lumière. Et ce contact avec la lumière est quelque chose de tout à fait particulier, parce que c'est là où je vois que cette expérience artistique n'est pas du tout utilisable. Cette expérience artistique, elle a sa presque finalité en elle-même. Je demeure dans cette expérience artistique. Et cette expérience artistique se prolonge, peut presque avoir une espèce de contemplation. Il peut y avoir une contemplation à partir de cette expérience artistique qui m'éveille, qui me met dans un état particulier de je saisis quelque chose qui est beau, qui m'enivre, qui c'est merveilleux. J'essaierai de le retrouver du reste, je ne le retrouverai jamais. Parce que je suis dépendant de la réalité extérieure. Vous voyez. Donc, je crois que c'est ça qui caractérise l'expérience artistique, c'est la mise en lumière par le côté affectif, par le côté imaginatif, par le côté de l'intelligence, la mise en lumière d'un sensible propre existant, pas imaginaire, existant. C'est ce sensible propre qui me saisit et alors qui me montre la puissance de ce sensible propre. Ce sensible propre a une puissance extraordinaire qui me captive. Le jugement d'existence est présent. Mais ce n'est pas ça du tout qui m'arrête. Ça n'a rien d'esthétique, le jugement d'existence. Rien du tout. Non, ça n'a rien du tout d'artistique. On le télescope, on le présuppose. Et dire, ah, et quelqu'un qui dit, est-ce que ça existe? Tu crois ce que tu es en train de contempler? Mais il recevra une bonne plaque de Londres. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas que ça n'existe pas. C'est beau. C'est merveilleux. C'est étonnant. C'est inédit, jamais vu ça, c'est extraordinaire. Et l'imbécile qui dit, le béotien qui dit, on est-ce que ça existe? Tu es sûr que ça existe? C'est pas un effet de lumière qui est là, qui fait que c'est ce meilleur. Ça est tout à fait égal que ça existe, ça n'existe pas. Que ce soit un effet imaginatif, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est la qualité sensible qui apparaît dans toute sa splendeur. C'est la splendeur des sensibles propres, vous voyez? Qui met en pleine lumière. Et c'est ça qu'il y a de grand dans l'expérience artistique. Qui est bien une expérience, ça reste de l'expérience, c'est un toucher particulier avec un sensible propre existant. Qui fait qu'on est en présence de quelque chose d'assez unique. et qui fait qu'on est à ce moment-là vraiment qu'on vit quelque chose qui n'est pas utilisable. Je crois que c'est ça la très grosse différence, vous voyez. Il y a des expériences qui sont utilisables. L'expérience que vous avez quand vous allez au marché, hein, c'est bien évident. L'expérience que vous avez quand vous écoutez, vous voulez acheter une auto et que vous écoutez le moteur, hein, c'est une expérience, hein. Vous entendez, ça ronfle. Mais ça ronfle mal. Il y a un petit quelque chose qui marche mal. Expérience, c'est une expérience d'un sensible propre, le son, mais utilisable. Est-ce que vous essayez de saisir la fêlure? Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Tandis que lorsqu'il s'agit d'expérience artistique, non, vous y restez. Et vous êtes saisi par ça. Vous êtes saisi par cette chose qui a quelque chose d'unique. Alors ça, c'est très important de saisir ce point de vue-là. C'est très important de saisir ce point de vue-là parce que ça montre comment l'expérience artistique s'impose à l'homme artiste. Et s'impose à l'homme artiste d'une manière tout à fait unique. Alors évidemment, un artiste ne se sentira pas. Vous avez déjà dit, n'est-ce pas? La première fois que j'étais en Grèce, c'était de Fribourg. J'allais avec un de mes amis qui était à Genève et qui était un sculpteur que j'aimais beaucoup. C'était un homme merveilleux. C'était un sculpteur. C'est intéressant de voyager avec un sculpteur. Il y a des tas de choses qu'on ne voit pas toujours, bien qu'on soit. On essaie d'être attentif. Tout d'un coup, n'est-ce pas? Visitant une petite île autour d'Athènes, je reçois un coup de poing dans la poitrine. C'était mon sculpteur qui me disait « Regardez cette déesse !» Alors, il regardait les yeux de cette grecque. C'est vrai, c'était très très beau. C'est des yeux. Vous savez, les yeux des statues grecques, quand on les voit en réalité comme ça, tout d'un coup, il n'y en a plus beaucoup, heureusement. Vous savez, les Turcs sont passés, alors les yeux grecs ont diminué de voltage, n'est-ce pas? Alors, c'est autre chose. Tandis que là, c'était, dans les îles, on a encore ça. Dans les îles, on a encore quelquefois de ces phénomènes extraordinaires. Mais lui, il était saisi. C'était pas une inspiration, c'est une expérience. Et qu'il l'arrêtait. Et comme il m'aimait bien, il fallait partager cette expérience, c'est bien évident. Et donc il fallait me réveiller, je ne l'avais pas vu, moi, mais lui, tout de suite, saisit cette espèce de regard étonnant. Ouais, voilà, l'expérience artistique, qui fait qu'on saisit des choses que d'autres ne saisissent pas. On dira, c'est pas objectif, vous voyez. Le béotien dira, ah, c'est pas objectif, c'est en tant qu'artiste que vous le saisissez. Non, c'est réel. C'est peut-être l'artiste qui voit mieux le réel que l'autre. Parce que l'autre, il voit pour l'utilisation. L'artiste, il le voit dans sa qualité propre. Comme un sensible propre qui le saisit et qui le prend. C'est peut-être lui qui, après tout, voit beaucoup mieux que les autres. Les autres, utilité. Et c'est vrai ça, on est comme ça, remarquez, quand on fait un trajet tous les jours le même, hein, des étudiants qui vont tous les jours à l'université, un ouvrier qui va tous les jours à son travail, n'importe qui, hein, un patron qui va à son bureau, il a mesuré le temps exact qu'il fallait pour y aller, pour ne s'occuper de personne. Hein, il va directement l'utilitaire, mais il ne voit plus rien. Il ne rencontre plus personne. Il ne sait plus rencontrer le regard d'un enfant. C'est vrai, ça. Il ne sait plus rencontrer quelque chose qui tous les jours change. Mais il faut être disponible pour être saisi par une expérience artistique. Il faut être disponible. S'il n'y a pas de disponibilité, et que vous êtes tendu vers un but utilitaire, c'est bien évident, vous avez, dès le point de départ, pris un axe d'ordre utilitaire. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans le dilettantisme. Hein. Moi, je me mets dans la détente pour pouvoir expérimenter le bon chocolat d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, on se prépare avec la bonne dilettante. Alors, ça, c'est le dilettante, c'est le gourmet, on voit très très bien ça. C'est les vieux restes mondains, n'est-ce pas? Qui font qu'on veut jouir de la justice. C'est pas l'expérience esthétique, c'est pas jouir. Non, non. Qu'il y ait de la joie, très juste, qu'il y ait de la jouissance, très juste, mais c'est pas ça. C'est quod visum placet. C'est quand, en voyant, je suis heureux de voir. C'est comme ça que saint Thomas définit le beau. Hein. Et c'est tellement vrai quand vous regardez un beau jeu de soleil. Évidemment, quand l'office sonne, vous regardez rapidement parce qu'il faut aller l'office sonne. Et c'est vrai, on est bien obligé. Si on avait un peu plus de temps, on regarderait plus. Si on peut avoir 5 minutes, on regarde 5 minutes. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.